Bonjour, bonjour. Ça y est, nous sommes en direct pour ce nouvel atelier, les 6 étapes de la résilience professionnelle. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, si vous regardez cette intervention en direct, vous avez le chat, que ce soit sur le site ou même sur YouTube d'ailleurs. Et si vous regardez en différé, eh bien, aucun souci. Normalement, vous allez pouvoir retirer ce que vous êtes venu rechercher. Et justement pour voir si tout fonctionne bien et également pour m'assurer que je réponde à vos attentes durant cette intervention, j'aimerais que vous mettiez en commentaire avec quoi vous aimeriez repartir de cette intervention. Donc cette intervention sur les 6 étapes de la résilience professionnelle. J'aimerais pour aujourd'hui que ce soit le plus interactif possible. Donc si vous avez des questions, des retours, si vous voulez me challenger, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Et en attendant, je vois les personnes qui sont présentes au direct. Donc, je vois Margaret. Bonjour Margaret. Bonjour Karima. Ensuite, nous avons des invités. Nous avons également Kesiban. Bienvenue. Donc, question pour vous toutes et tous. C'est avec quoi vous aimeriez repartir de cette intervention aujourd'hui? Pendant que vous répondiez à cette question, sachant que, comme vous le savez peut-être, il y a toujours un délai de latence entre le moment où je parle et le moment où je vois vos réponses, etc. Donc, c'est pour cela que je vais continuer sur cette lancée tout en revenant sur ce que vous êtes en train d'écrire dans le chat. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui en plus des questions auxquelles je vais pouvoir répondre donc, durant cette intervention? Donc, l'objectif vraiment de cette intervention, comme vous pouvez l'imaginer, hein, ce n'est pas juste de parler de résilience, mais aussi de soft skills, qui est le cœur de mon métier, de voir comment cultiver les soft skills peuvent booster votre résilience professionnelle. Donc pour cela, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet, hein, c'est quoi le monde dans lequel nous vivons et pourquoi c'est important de parler de résilience professionnelle. Ensuite, quels sont les soft skills ou que sont les soft skills? Parce que peut-être parmi vous, il n'y a pas de, il y a des personnes qui ne sont pas encore totalement familières avec ce concept. Et en quoi les soft skills sont une source de résilience professionnelle. Et enfin, je vais vous partager les 6 étapes de la résilience professionnelle telles que j'ai pu les décrire dans un de mes ouvrages sur la résilience. Et je vois maintenant des retours qui apparaissent dans le chat par rapport à vos attentes sur cette intervention. Donc, je vais inviter qui me dit des outils pour être plus robuste face aux difficultés business. Ok, on va parler de robustesse. Ah, c'est Claude, salut Claude. Ok, très bien. Moi, je vais pouvoir prendre des retours d'expérience et des illustrations autour de l'entrepreneuriat si cela peut t'éclairer également. Donc Benjamin, bonjour Benjamin, eh bien comment se maintenir en bon stress? Bonne question, on va pouvoir parler également de stress. Qu'est-ce qu'on entend par mauvais stress? Qu'est-ce qu'on entend par bon stress? C'est bien entendu lié aussi à cette notion de résilience. Alors Jacques, il y a Karima qui est en train d'écrire. Suspense. Vous savez, moi ce que j'aime bien avec le chat, c'est un peu comme sur WhatsApp. Vous voyez la personne qui est en train d'écrire et après elle arrête d'écrire. Et après, elle reprend l'écriture. Et après, et il y a un suspense qui se met en place. Et c'est ça que je trouve aussi assez marrant avec cet outil que nous utilisons aujourd'hui. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux participants. Donc, nous sommes en train de voir quelles sont vos attentes que vous pouvez mettre dans le chat pour pouvoir pour que je puisse répondre à vos attentes durant cette intervention. Ok, donc en attendant vos retours, eh bien, je vais continuer et notamment vous expliquer le monde dans lequel nous vivons. Alors, je ne vais pas forcément prendre énormément de temps là-dessus parce que c'est un concept que je traite très souvent, hein, notamment durant mes interventions en entreprise. Mais par contre, je vais peut-être partager avec vous quelque chose d'un peu nouveau. Donc, c'est vrai qu'en conférence, généralement, je parle du monde VUCA. Le monde VUCA, donc, qui est un acronyme qui a été développé par l'armée américaine dans les années 80 pour décrire le nouveau monde dans lequel nous vivons après la chute de l'Empire soviétique. Un monde qui est plus volatile, avec des événements imprévus qui peuvent surgir du jour au lendemain, et que cette imprévisibilité, ce manque enfin, cette difficulté à anticiper les événements génère de l'incertitude, donc uncertainty, donc une incertitude par rapport au futur. Et qui est de plus en plus courte. Avant, quand on parlait de long terme, on avait des visions sur plusieurs décennies. Moyen terme, c'était de quelques années. Court terme, c'était dans l'année. Aujourd'hui, on a l'impression que le temps s'est accéléré, que le temps s'est compressé et que cette zone d'incertitude fait que elle est plus proche finalement et que maintenant le long terme c'est peut-être 3 ans, le moyen terme c'est dans l'année et le court terme c'est dans le mois. Je ne sais pas si vous avez observé cette tendance, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer, que je lis justement à cette notion d'incertitude, cette incertitude qui est liée, oui, au grand défi que l'humanité, auquel l'humanité doit faire face avec le changement climatique, avec tous ces défis géopolitiques et sociaux, mais également avec l'accélération de l'innovation qui est notamment menée par l'intelligence artificielle et qui fait que même si nous utilisons une innovation aujourd'hui, avant cette innovation pouvait être utile sur plusieurs années, aujourd'hui, eh bien, ça peut durer peut-être quelques mois avant qu'une nouvelle innovation émerge et rend cette ancienne innovation obsolète. D'ailleurs, un chiffre que je trouve intéressant, que nous avons pu trouver ça avec mon équipe dans les travaux de la Harvard Business Review, qui explique que la durée de vie d'une compétence technique était d'auparavant, on va dire, 20 ans. Voilà. Donc il y a, dans les années 80, vous aviez une compétence technique, vous avez 20 ans devant vous d'expertise, vous savez que vous avez cette compétence pendant 20 ans, elle va vous être utile. Aujourd'hui, à combien sommes-nous selon vous? C'est quoi la durée de vie moyenne d'une compétence technique selon vous? D'après ces études menées, enfin qui ont été répertoriées dans la Harvard Business Review. Je laisse un peu de suspense, le temps d'aller voir les retours qui ont été faits dans le chat. Donc il y a Karima qui veut des compétences clés que l'on doit développer pour faire face au monde VUCA. Comment être dans la résilience quand on est un leader collaboratif? Ah, je vois que des personnes qui ont fait le test de leadership, peut-être que nous avons créé avec Morgane Février. Ok, bienvenue Malak. Marc, comment articuler en tant que manager résilience individuelle, résilience des équipes et résilience organisationnelle? Ouh, j'aime beaucoup cette question, Marc. Très bien. 2 ans, en effet, quasiment, c'est juste, c'est entre 2 ans, entre 18 mois et 2 ans, en moyenne. Pour vous dire que, à quel point c'est devenu incertain de miser sur certaines compétences ou sur certaines connaissances pour naviguer dans ce monde. Et toutes ces innovations, tout le fait que le temps s'accélère, que nous sommes de plus en plus connectés, que nous vivons aujourd'hui dans un monde hybride. Avant, il n'y avait que le monde présentiel. Ensuite, il y a eu le monde virtuel, qui a surtout explosé, qui existait déjà, mais qui a vraiment explosé dans les années 20, hein, durant les années 2020, dans le Covid. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde hybride. Quand je fais des interventions aujourd'hui, je fais souvent des interventions en présentiel qui sont aussi retransmises en direct. Nous vivons dans un monde hybride et toutes ces connexions en présentiel, en distanciel, en hybride augmentent la complexité de nos métiers. Je vois par exemple Marc qui pose une question sur le management. En tant que manager, eh bien, nous devons gérer à la fois les équipes en présentiel, à la fois en distanciel, parfois une partie en présentiel, une partie en distanciel. C'est devenu beaucoup plus complexe en fait. Et donc nous sommes dans un monde dont la complexité augmente. Et toute cette complexité le rend de plus en plus ambigu. Donc voilà l'explication de ce terme VUCA. Donc VUCA en anglais, VUCA en français, hein, parce qu'en français cela deviendrait volatile, incertain, avec un i, complexe et ambigu. Mais il y a un autre terme que j'ai trouvé également. Alors je pense que ça va être un peu du marketing hein, pour essayer de trouver un autre terme que le terme VUCA, mais qui je pense est quand même assez intéressant. Parce que ce qui est bien avec le terme VUCA, c'est pour ça que je préfère l'utiliser plutôt que l'autre que je vais vous présenter, c'est que c'est quelque part c'est neutre. C'est-à-dire oui, la volatilité, c'est sûr que ça génère des problèmes, mais ça génère des opportunités aussi. Si des événements impromptus peuvent surgir du jour au lendemain, ça peut être à la fois négatif, comme aussi très positif. Comme par exemple, vous, la possibilité de développer une innovation ou de miser sur une innovation qui va faire exploser votre business, par exemple. Donc, il y a le côté positif et le côté négatif. Pour l'incertitude, c'est pareil. Si vous êtes certes dans une situation où vous avez la certitude de jamais en sortir, et que c'est une situation désagréable, ben c'est pas forcément positif. Par contre, l'incertitude, c'est aussi peut-être se dire, bah oui, peut-être que je suis dans une situation désagréable aujourd'hui, mais tout est possible. L'incertitude, c'est aussi le champ des possibles finalement. Donc ça peut donner de l'espoir, ça peut donner de l'optimisme. Donc l'incertitude n'est pas toujours négative, ça peut être aussi positif. La complexité, bah, c'est la même chose. On peut le voir dans la notion de résilience, la complexité, c'est peut-être plus difficile à comprendre en fait quand on navigue dans les systèmes complexes. En revanche, la complexité va générer de la résilience. Par exemple, pour ma part, mon métier a évolué, mon métier de conférencier, qui était principalement présentiel avant les années 20, mais depuis le distanciel, eh bien grâce au travail hybride, eh bien j'ai pu pivoter. Et donc cette complexité par le monde numérique, le monde présentiel, etc., a rendu mon métier plus, ma posture en tout cas, entrepreneuriale plus résiliente, grâce à la complexité. Et ensuite, l'ambiguïté. Oh oui, c'est plus complexe de communiquer avec d'autres personnes quand nous avons cette ambiguïté, mais ça permet aussi la richesse des idées. Et c'est ça qui est intéressant avec ce terme VUCA. Après, il y a un terme justement qui est sorti, je crois que je l'ai vu aussi dans le Harvard Business Review. C'était pas un article scientifique, mais c'était une contribution d'un auteur qui expliquait que ben, il y a un autre acronyme, c'est le monde TUNA. Alors TUNA, pourquoi? Pour turbulent. U pour toujours incertitude, mais N pour nouveauté et A toujours pour ambiguïté. Donc là, nous avons, à la différence du monde VUCA, la notion de turbulence, c'est-à-dire que là, au-delà de la volatilité, nous sommes secoués. Donc moi, c'est ce que j'entends dans la notion de turbulence. Nous sommes secoués, en fait. Nous sommes secoués par les défis du changement climatique. Nous sommes secoués par les innovations. Nous sommes secoués peut-être aussi par la crise économique. Peut-être que ce n'est pas un mot que certaines personnes apprécient, mais si vous êtes dans l'entrepreneuriat, eh bien, je pense que vous avez peut-être pu sentir aussi un ralentissement économique global qui peut vous impacter. Moi, personnellement, je le ressens. Donc oui, nous sommes secoués par ces turbulences et c'est ce qui va nous amener à devoir développer des soft skills. Et là, ce que j'aime bien avec cette notion de N pour nouveauté, hein, la nouveauté du mot tuna, c'est que en effet, nous sommes dans une société qui est de plus en plus motivée par la nouveauté. Et on le voit que ce soit par TikTok, où en fait on cherche toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui va attirer notre attention, quelque chose de court. Que l'on voit par les nouvelles séries, plutôt que d'avant, on avait des séries qui étaient créées, où on avait 20 épisodes sur 20 saisons, et on était accro à ces, par exemple, Urgence en France, etc. Bah, c'était, voilà, il n'y avait pas forcément la recherche de la nouveauté, en tout cas pas dans la même mesure où aujourd'hui, on est en tout cas dans une société où on recherche la nouvelle série. Quelle est la série qui va être totalement différente, on va faire des choses plus courtes également. Je ne sais pas si vous l'avez observé vous aussi, ou je suis le seul, mettez dans le chat également si vous êtes d'accord avec mes observations, que ce soit par rapport au monde VUCA, donc avec cette notion de volatilité, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté, mais aussi dans ce monde TUNA avec ses turbulences et ses nouveautés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Oui. Tout à fait. Ok. Eh bien, que l'on soit dans le monde Tuna ou dans le monde VUCA, quoi qu'il en soit, eh bien, cela va nous impacter. Et c'est pour ça que je parle de résilience professionnelle, parce que ça va nous impacter, bien entendu, dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. Parce que, nos métiers, quels qu'ils soient, sont impactés par ce monde. Que ce soit ce monde VUCA ou ce monde TUNA. Nous sommes impactés par le fait que bah, y a une obsolescence des compétences. On parlait de l'accélération de l'obsolescence des compétences, où une durée de vie d'une compétence est passée de 20 ans à 2 ans en moyenne en 2 ou 3 décennies. Donc cette obsolescence des compétences va générer de la disparition de certains métiers. Donc, il y a des métiers qui sont disparaissants. Mais aussi, hein, par rapport à ce monde VUCA et TUNA, le fait qu'il y a de la nouveauté qui émerge constamment, de l'innovation, de nouveaux outils technologiques, de nouvelles de nouveaux besoins, de nouvelles appétences, eh bien, ça va générer aussi de nouveaux métiers. Donc, ce qu'on appelle des métiers émergents, des métiers qui sont au balbutiement de leur génération et qui, demain, d'ici quelques années, vont devenir des métiers généralisés. Mais si vous n'êtes pas dans cette catégorie de métiers disparaissants, ou si vous n'êtes pas dans cette catégorie de métiers émergents, alors vous êtes forcément dans la catégorie des métiers mutants. Comme par exemple, pour ma part, le métier de conférencier est un métier qui a muté, il n'a pas disparu. Ce n'est pas du tout un métier émergent. En revanche, il a totalement muté, avec notamment cette notion d'intervention hybride ou d'intervention numérique. Et là, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir, même vous, dans quelle catégorie vous situez-vous, dans quelle catégorie professionnelle? Est-ce que vous sentez que vous êtes plutôt dans un métier disparaissant, dans un métier plutôt émergent ou dans un métier mutant? Je serais assez curieux de savoir où vous vous positionnez. Mutant, mutant. Nous avons une équipe de X-Men aujourd'hui. Mutant, ouais, dans la formation, tout à fait, oui, mais le métier de la formation a muté, clairement. Mutant, mutant, mutant. Bon, ben voilà, nous sommes en mode X-Men aujourd'hui pour voir comment nous allons pouvoir nous adapter à ce monde qui nous challenge, ce monde qui est en train de muter et qui nous amène à devoir faire des choses différemment. Ok. Alors, par rapport à ce monde Vika et ce monde Tuna et ces différents métiers, eh bien, nous allons devoir changer et surtout miser sur ce qui va être le plus pérenne possible à l'avenir. Si on, alors, bien entendu, mon message ici n'est pas de dire oubliez les compétences techniques, elles vont devenir obsolètes, l'intelligence artificielle va les remplacer, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas vrai. Pour exercer un métier, nous avons aussi besoin de compétences techniques, qu'on appelle les hard skills. Même pour les métiers de la formation. Par exemple, pour former aujourd'hui, surtout pour s'adapter dans ce métier mutant, eh bien, vous devez être en mesure d'utiliser les outils technologiques. Comment utiliser un logiciel de visioconférence pour faire de la retranscription en streaming, par exemple. Là, aujourd'hui, j'utilise OBS, YouTube en live, etc. Je peux utiliser aussi Zoom pour faire des retransmissions en direct sur LinkedIn. Ce sont des compétences techniques qui m'aident en tant que conférencier. Donc j'ai besoin de ces compétences-là. Et tous les métiers que nous exerçons nécessitent aussi des compétences techniques, parce que si on ne fait que miser sur les soft skills en disant que les hard skills, ça ne sert à rien, eh bien on va tomber dans le piège de l'illettrisme numérique. L'illettrisme numérique, c'est quoi? C'est que je n'arrive pas à utiliser les outils technologiques. Et avant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, hein, surtout au début des années 2000, on disait non, mais moi la technologie, ce n'est pas pour moi. Ah, moi de toute façon, je ne suis pas geek. Je ne suis pas geek, donc j'utilise cette excuse pour ne pas chercher à apprendre, pour ne pas chercher à me mettre à ces outils-là. Aujourd'hui, c'est indispensable, même pour des activités personnelles, l'administratif, etc. Nous sommes obligés aujourd'hui d'utiliser ces outils numériques. Donc attention à cette posture un peu extrême en disant soft skills versus hard skills. Non, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Et ce n'est pas que miser sur les hard skills, parce que si vous misez tout sur les compétences techniques et que vous délaissez totalement le côté des compétences comportementales et humaines, eh bien vous allez prendre le risque de miser que sur des compétences qui vont devenir obsolètes. Donc là, ici, mon message, c'est quoi? C'est de dire miser sur les deux, mais miser notamment aussi, peut-être en priorité, sur les soft skills, qui sont pour moi la source de résilience professionnelle. Parce que, en effet, dans ce monde Vika et dans ce monde Tuna, eh bien, nous devons faire face à des difficultés, nous devons faire face à des imprévus, nous devons constamment faire face à des problèmes, à des imprévus, à des choses qui nous tombent dessus. Et c'est en ce sens que l'on doit faire preuve de résilience. Alors, attention, quand je parle de résilience ici, je parle de résilience professionnelle, je ne parle pas de la résilience que l'on pourrait voir dans le domaine de la psychologie face à des traumas, etc. Même si, bien entendu, c'est lié, etc. Ici, mon message, c'est vraiment de rester dans le cadre du domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que la résilience professionnelle dans ce cadre-là? Eh bien, dans mon livre La résilience, dépasser les difficultés et échecs avec optimisme, je pars de la résilience professionnelle qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, qui est cette capacité à endurer, faire preuve d'endurance. C'est-à-dire que si j'ai des choses qui me tombent dessus, eh bien, à quel point je peux porter cette charge mentale et émotionnelle, voire psychologique, pour continuer d'avancer. Et donc, c'est ça l'endurance. Mais c'est aussi cette capacité à rebondir, hein, c'est-à-dire pas toujours porter le fardeau et juste parce qu'à un moment donné, je vais tomber, parce que nous sommes tous humains et nous avons des limites, mais aussi savoir rebondir, c'est-à-dire de trouver une autre manière de fonctionner, une autre solution qui va permettre de s'alléger, de pouvoir continuer d'avancer sans cette charge émotionnelle, psychologique et mentale. Et c'est également cette capacité à persévérer. Parce que dans ce monde Tuna et VUCA, eh bien, il y a plein de choses qui ne marcheront pas. J'ai vu que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et quand on est dans le domaine de l'entrepreneuriat en ce moment, je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses qui fonctionnaient auparavant et qui ne fonctionnent plus. Peut-être que souvent, hein, je ne sais pas, même peut-être dans les entreprises d'ailleurs, il n'y a pas que en entrepreneuriat. Si vous êtes manager, vous avez peut-être aussi entendu, ah ben on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Oui, mais le problème, c'est que oui, on a toujours fait comme ça, mais c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que ça continue à fonctionner aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui change, qui est turbulent, qui nous secoue pour justement nous amener à nous libérer de l'ancien pour faire la place à la nouveauté. Donc, il y a des choses qu'on faisait qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, c'est normal. Et donc, quand nous sommes dans cette dynamique-là, bah, nous devons constamment chercher à trouver quelque chose d'autre qui va fonctionner. Et quand nous sommes dans cette quête, dans cette dynamique d'essai, finalement, c'est normal qu'on s'expose au risque d'échouer, de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et quand c'est comme ça, c'est difficile en fait. C'est là que ça demande de la persévérance, de dire, ok, j'ai testé ça, ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose, je teste autre chose. Et c'est ça pour moi la résilience professionnelle, c'est de réussir à continuer d'avancer malgré les difficultés, malgré les échecs et malgré les choses qui ne fonctionnent plus. Est-ce que ça vous parle également, ce que je suis en train de partager avec vous par rapport à cette notion de résilience professionnelle, mais aussi par rapport à cette notion de c'était mieux avant, mais en fait avant c'était avant et aujourd'hui bah, ça a changé. Exactement. Donc maintenant, on va faire un petit, enfin, vous allez faire un petit diagnostic, un petit exercice d'auto-réflexion pour voir comment vous vous positionnez aujourd'hui sur cette notion de résilience professionnelle. Donc là, nous avons quelque part nos trois indicateurs et ce qui va être intéressant pour pouvoir vous positionner, c'est de vous poser cette question. 1. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous avez développé votre capacité à endurer? À quel point vous sentez endurant? Cette endurance vous permet aussi de ne pas tomber dans l'épuisement trop rapidement. Ce n'est pas du tout une cure à l'épuisement, bien entendu, parce qu'en ne misant que sur l'endurance, c'est là qu'on prend le risque de tomber dans la phase d'épuisement, mais c'est ce qui permet en tout cas de tenir un peu plus. Même question sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous sentez que vous avez développé votre capacité de rebond? Et enfin, sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous avez développer cette capacité de persévérance. Ce que je vous invite à faire, c'est ensuite de noter hein, sur une échelle de 0 à 10 à quel point vous avez développé ces trois facultés. Selon vous, hein, c'est très personnel, hein, c'est de l'auto-réflexion. Et ensuite, vous allez mettre un score total sur 30, quelque part. Ça va vous donner une note sur 30. Et cette note sur 30 vous permettra de vous positionner sur à quel point vous sentez que vous avez développé votre résilience professionnelle. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ça dans le chat. C'est quoi votre score sur une échelle de 0 à 30? L'important ici n'est pas d'avoir le meilleur score. Ce qui va être intéressant, c'est de vous positionner en disant aujourd'hui, le 19 avril 2024, je me suis donné comme note de temps. par exemple, je ne sais pas, 19 ou 20, peu importe. Et après, la deuxième question qui va être intéressante pour vous, c'est de vous poser la question, c'est qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui pour augmenter cette note de 1 point ou cette note de 2 points? Et de réfléchir, ok, par rapport à ça, si je, par exemple, je décide de faire, par exemple, de plus de cardio, par exemple, faire plus de courses à pied, je sais que ça va me permettre de développer mon endurance mentale. Et donc ça va être une activité que je peux mettre en place 3 fois par semaine pour développer mon endurance mentale, faire un peu plus de courses à pied. C'est un exemple. Donc là, c'est ça l'enjeu de cet exercice. C'est 1, vous positionner aujourd'hui. 2, vous poser cette question, qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui pour augmenter cette note de 1 point? Et 3, faire le bilan, par exemple, dans 30 jours. Parce que si vous posez cette question tous les jours, en disant, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma note de résilience professionnelle de 1 point? Vous faites ça pendant 30 jours et à la fin, eh bien, vous refaites ce questionnaire en disant, ok, maintenant, à quel point je me sens résilient par rapport à ma capacité à endurer, par rapport à ma capacité de rebond, par rapport à ma capacité à persévérer. Et vous voyez, s'il y a une progression. Et pour moi, c'est ça la philosophie des soft skills, ou à la culture soft skills même, c'est d'être dans cette dynamique toujours d'amélioration continue, d'auto-questionnement, de positionnement, en me disant, ok, comment je me positionne aujourd'hui, comment je vois mon évolution durant ces 30 derniers jours, et d'être constamment dans cette dynamique-là. Et ça fonctionne aussi avec la résilience professionnelle. Alors, je vois que nous avons du 19, 22, etc., 15. Très bien, donc ça c'est pour vous en fait, c'est pas du tout pour vous comparer. Par contre, ça va être intéressant d'entrer dans cette dynamique-là. Donc là, qui parmi vous va relever ce défi, faire cet exercice de se dire, ok, j'ai ma note pour aujourd'hui le 19 avril, et donc pour le 19 mai, dans un mois, eh bien, j'aimerais augmenter ma note par exemple de 3 ou 4 points. Et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire au milieu pour augmenter cette note comme vous le souhaitez. Voilà. Qui parmi vous a envie de relever le défi? Sachant que, pour la petite anecdote, dans un mois, jour pour jour, ça sera mon anniversaire. Donc il y a une date un peu symbolique en plus dans cet engagement. Ok, il y a Claude, Véronique, Marc. Ok, super, voilà. Vous êtes engagé d'un point de vue public. Il n'y a plus qu'à. Et en fait, vous vous rendez compte que rien qu'avec cette manière de fonctionner, vous vous rendez compte que finalement la résilience professionnelle n'est pas un trait de personnalité. Parce que si c'était un trait de personnalité, ce serait binaire en fait. C'est je suis résilient ou je ne suis pas résilient. C'est binaire. C'est je suis plus l'adjectif, c'est un trait de personnalité. Mais là, vous vous rendez compte que avec cet état d'esprit, cette philosophie, eh bien, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que déjà, vous ne partez pas de zéro. Il n'y a personne qui a mis zéro. Parce que tous les humains ont cette capacité de résilience, pas développée de la même manière, mais elles l'ont en potentiel. Et vous vous rendez compte que vous pouvez aussi l'augmenter. Parce que vous dites, si je suis à 15 aujourd'hui, demain, je peux être à 16. Il suffit que je mette des choses en place pour cela. Donc, on peut développer cette faculté, on peut développer cette compétence. Et c'est pour cela que pour moi, les soft skills, c'est vraiment différent des traits de personnalité. Un trait de personnalité se formule du type je suis plus adjectif. Ce n'est pas une valeur non plus. La résilience n'est pas une valeur. En disant, moi j'ai la valeur résilience. C'est pas, c'est une capacité, la résilience. Une valeur, ça va être quelque chose qui va amener un jugement de valeur, justement. Si par exemple pour moi j'ai la valeur liberté, voilà, la valeur liberté. Et que par rapport à cette valeur, je vais faire des choix dans ma vie qui vont être liés à ma liberté. Eh bien, pour certaines personnes, ça ne va pas leur correspondre. Parce que peut-être que les autres personnes vont dire, non, moi, c'est plutôt la loyauté à fond. Et pour moi, la liberté, ça va en opposition avec mes valeurs. Et donc, on va avoir des jugements de valeur. Les soft skills, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est neutre. La résilience, il n'y a pas de jugement à faire. C'est une capacité, en fait. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant avec les soft skills, c'est que comme ce ne sont pas des valeurs, comme ce ne sont pas des traits de personnalité, eh bien cela crée plus de tolérance, moins de jugement envers l'autre. C'est la même chose pour les savoir-être. Souvent on me dit que oui, les soft skills, c'est les savoir-être. Non, c'est pas que ça. Alors peut-être que oui, dans certains cas, ça peut être le cas. Mais par exemple, un savoir-être, moi je vis au Royaume-Uni depuis 10 ans maintenant, à Londres. Eh bien, je peux vous dire que le savoir-être ici à Londres n'est pas le même qu'à Paris où j'ai vécu 4 ans, ou à l'île de la Réunion dont je suis originaire. La même situation, vous mettez ces trois types de personnes, elles ne vont pas se comporter de la même manière. Et du coup, il y aura du jugement. Il y a, bah oui, bah, cette personne-là n'a aucun savoir-être. Parce que bah, c'est, y a pas la même culture derrière. Alors là, j'ai pris des exemples culturels liés à des espaces géographiques, mais on peut aussi l'extrapoler à des cultures d'entreprise. Le savoir-être dans une start-up technologique n'est pas le même dans le savoir-être d'une grande institution bancaire ou dans une grande institution publique ou dans une entreprise agricole. C'est trois secteurs professionnels totalement différents avec des cultures différentes. Et donc des savoir-être conditionnés par rapport à ces cultures qui sont différents. Les soft skills, ce ne sont pas des savoir-être dans ce sens-là. Ma résilience professionnelle, eh bien, je peux l'utiliser dans différentes industries, dans différents contextes. Il n'y a pas de jugement derrière. Et enfin, les soft skills, bah, ce ne sont pas des compétences techniques. Et ce qui est bien avec ça, comme ce ne sont pas des compétences techniques, c'est qu'elles vont être moins sujettes à l'obsolescence des compétences. Parce que l'obsolescence des compétences concerne principalement les compétences techniques. Pourquoi? Parce que ce sont des compétences que l'on peut plus facilement automatiser. Soit par de l'externalisation dans d'autres pays, par exemple, soit par de l'automatisation via une intelligence artificielle. Mais ça, c'est surtout des compétences techniques. Des compétences non techniques, comme les soft skills, eh bien, vont être beaucoup plus difficiles à être externalisées ou à être automatisées. Et donc, c'est en ça que les soft skills sont des compétences qui ne vont pas forcément devenir obsolètes, qui vont être donc quelque part plus robustes par rapport à ces changements, et donc qui vont augmenter notre niveau de résilience professionnelle. Si vous misez beaucoup, principalement sur les soft skills, vous misez principalement sur des compétences qui vont être moins sujettes à de l'obsolescence. Donc vous allez augmenter votre niveau de résilience professionnelle par rapport au futur. Est-ce que c'est clair tout ce que je viens de partager avec vous sur cette notion de soft skills, ce que ce n'est pas, et en quoi c'est important de bien comprendre cela quand on parle des soft skills? Ok. Alors qu'est-ce qu'on entend par soft skills dans ce cas? Eh bien, les soft skills, ce sont des compétences que l'on peut développer, au même titre que la résilience, à travers l'exercice que nous allons faire ensemble. Ce sont des compétences que tous les humains peuvent cultiver. La résilience, c'est une compétence que tous les humains peuvent développer. Elles sont transversales et non techniques. Donc, par exemple, la résilience, elle peut être utile dans votre métier aujourd'hui, dans un autre métier demain, mais aussi dans vos situations personnelles. Et enfin, ce ne sont pas des adjectifs qui, dans ce cas, seraient plutôt de l'ordre de la personnalité. Ce sont des ressources. Et c'est pour cela que quand vous parlez de soft skills, on parle à travers un nom commun. Par exemple, j'ai développé ma résilience, plutôt que de dire je suis résilient. J'ai développé ma créativité, plutôt de dire que je suis créatif. J'ai développé ma capacité, mon esprit de synthèse, plutôt que de dire je suis synthétique. Et je vous encourage, lorsque vous parlez de soft skills, d'utiliser cette manière de fonctionner. Parce que bah, ça va être moins dans le jugement, moins dans. En fonctionnant comme ça, vous allez moins poser d'étiquettes chez les gens, en disant par exemple bah, ah, tu es créatif. Donc vous pensez que c'est par exemple un compliment, mais en faisant cela, une personne peut se dire je suis créative, donc je ne suis pas organisée, et c'est OK. Comme je suis créative, j'ai pas besoin d'être organisée. Mais non, mais dans le principe des soft skills, ça ne fonctionne pas comme ça. Le principe des soft skills, c'est peut-être que oui, j'ai développé cette force, cette capacité de créativité, mais ça ne m'empêche pas de développer d'autres capacités d'organisation. Ce n'est pas incompatible. Peut-être que ça me demandera plus d'efforts parce que ce n'est pas dans ma personnalité. Néanmoins, c'est possible. Et pour moi, c'est important de bien comprendre cela lorsque l'on parle des soft skills. Et donc là, j'ai parlé de la résilience comme une soft skill. Eh bien, comme je l'ai expliqué aussi, le fait de miser sur les soft skills, ça va augmenter votre niveau de résilience professionnelle parce que vous n'allez pas tomber dans le piège de l'obsolescence des compétences, contrairement aux compétences techniques. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas miser du tout sur les compétences techniques. C'est de surtout ne pas délaisser les soft skills. Mais au-delà de ça, par rapport à la résilience, eh bien, si on fait un point, eh bien, je vais partager avec vous les fameuses 6 étapes que j'ai pu lister dans le livre que j'ai écrit hein, sur la résilience et qui permet d'augmenter sa résilience professionnelle. Et donc vous allez voir aussi, à travers ces différentes étapes, qu'une soft skill ne fonctionne pas seule. Par exemple, la créativité, elle est toujours contextuelle. Je ne suis pas juste créatif, c'est j'utilise ma créativité dans un contexte, par exemple, artistique, ou dans un contexte de résolution de problèmes, dans un contexte entrepreneurial. Et en fonction du contexte, l'expression de ma soft skill va être différente. Si c'est dans un contexte entrepreneurial, par exemple, eh bien, le fait de mobiliser ma créativité va peut-être m'amener à m'amener vers la résolution de problèmes ou vers de la motivation pour passer à l'action. Alors que si je fais de la créativité dans le domaine artistique, ça peut être différent. Donc une soft skill ne fonctionne pas seule. Une soft skill fonctionne dans un contexte et en fonction du contexte, elle va mobiliser d'autres soft skills. Et c'est la même chose pour la résilience. Donc quand vous mobilisez votre résilience, vous ne mobilisez pas juste la résilience, vous mobilisez aussi l'intelligence émotionnelle, vous mobilisez aussi la motivation, la gestion des émotions. Donc il y a tout ça, en fait, qui se met en place lorsque l'on parle de résilience. Donc bah, pour les 6 étapes que j'ai listées, bah, c'est la même chose. Donc si vous voulez développer votre niveau de résilience professionnelle, donc ça va être important de commencer par cette première étape qui est la préparation. Plus vous êtes prêt à faire face à l'imprévu, plus vous êtes prêt à faire face aux difficultés, bah, plus vous aurez moins vous aurez de difficultés pour faire preuve d'endurance, de rebond et de persévérance. Et donc la préparation, c'est quoi? Imaginons que je me lance dans un projet entrepreneurial et bah, je sais que ça ne va pas être simple. Nous sommes dans un monde tenace, je vais être secoué. Donc j'anticipe, je ne vais pas me lancer comme ça, la fleur au fusil, en me disant bon bah ça va aller. Sinon, je sais, ok, voilà mon objectif, voilà ce que j'ai envie de mettre en place, et je sais que ça va être difficile. Donc je vais faire en sorte que quand je vais me lancer, eh bien je vais dans les meilleures prédispositions mentales possibles. Bonne nutrition, bon sommeil, pratique méditative pour gérer mes émotions et ma charge mentale, préparer mon entourage, parce que bah, nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés de notre famille, etc. Et donc leur préparer sur le fait que voilà, je lance quelque chose de nouveau, j'aurai besoin de leur soutien ou de leur compréhension, peut-être pas leur soutien, mais leur compréhension sur le fait que je vais peut-être être stressé, je vais être challengé. Et donc la préparation, ça touche à tout ça en fait. C'est comment j'arrive à me préparer moi pour être dans les meilleures prédispositions émotionnelles, mentales, physiques, psychiques pour relever un défi, mais aussi la préparation de mon environnement. Environnement relationnel avec ma famille, mes proches, environnement physique également. Si vous voulez lancer un projet entrepreneurial et par exemple vous êtes chez vous, ben ça va être mieux si vous avez un espace dédié que si vous le faites un petit peu partout. Et donc tout ça repose sur la préparation. Et la préparation, c'est une compétence que l'on peut développer également. La préparation, ça va aussi vous amener à voir quelles sont les habitudes que vous voulez développer, que vous voulez cultiver. Et comme pour, bah, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent ici, bah, parmi vous, il y a des personnes qui ont suivi mes programmes et qui savent que bah, pour moi, la meilleure manière de développer des soft skills, c'est par le système d'habitudes. Donc, c'est les habitudes qui permettent par la répétition, de développer la compétence. Et donc ça se passe dans la phase de préparation, c'est de se dire quels sont les soft skills dont j'ai besoin pour me sentir prêt pour ce défi. Et qu'est-ce que je vais mettre en place en termes d'habitude pour développer ces soft skills. Par exemple, c'est ce que j'ai mis en place, alors ça commence à dater, mais en 2018 pour la préparation au championnat du monde de mind mapping, je me suis dit, ok, bah pour me préparer, parce que je sais que ça va être stressant, Donc j'ai préparé mon environnement, relationnel, physique, etc. Et je me suis dit, bah, pour relever le défi, j'ai besoin de développer ma concentration, j'ai de besoin de développer ma créativité. Et donc pour bah, ces deux exemples, eh bien, je me suis dit, bah, je vais pour la concentration, je vais pratiquer la lecture rapide, parce que ça, c'est quelque chose qui me booste et qui m'aide à être focus sur un contenu, par exemple. Et pour travailler la créativité, eh bien, c'était de pratiquer le dessin, qui va aussi d'ailleurs m'être utile pour le mind mapping. Et donc tous les jours, pendant 15 minutes, eh bien, j'ai réalisé ces exercices pendant plusieurs semaines, ce qui m'a amené à développer ces soft skills, ce qui m'a amené à me sentir beaucoup plus prêt pour relever le challenge. Et donc la préparation, eh bien, c'est ça. Donc continuez à me dire si c'est clair dans le chat avant que je passe à la suite et pour m'assurer que bah, je dise des choses qui vous parlent en fait. Donc deuxième étape, après la préparation, c'est la digestion. C'est-à-dire que oui, la résilience professionnelle, c'est quoi? C'est vous avez un imprévu qui vous tombe dessus, quelque chose qui est désagréable. Une mauvaise nouvelle, donc dans l'entrepreneuriat, ça peut être la perte d'un client. Si vous êtes manager, ça peut être la démission d'un collaborateur qui décide de partir. Et donc, bah, c'est une nouvelle qu'il faut digérer. Et tant qu'on n'a pas digéré cette nouvelle, on ne va pas être en mesure de rebondir. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir digérer. Et donc, la digestion passe notamment par un travail sur la gestion des émotions. C'est comment j'accueille la nouvelle situation, comment je passe par quelque part une forme de processus de deuil, par exemple, le deuil d'un client qui est parti, le deuil d'un collaborateur qui part, par exemple, et ensuite faire la place pour pouvoir rebondir. Et donc la digestion, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut travailler aussi à travers des soft skills. Et cette digestion va permettre ensuite l'apprentissage. Et comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des étapes chronologiques. Si je ne me suis pas préparé, ça va être très difficile pour moi de digérer. Je vais être en mode réactif par rapport à une situation si je ne suis pas prêt. Mais si j'ai mis les meilleures prédispositions, les meilleures conditions possibles en amont, ça va être plus simple pour moi de digérer. Je ne peux pas apprendre de l'événement si je n'ai pas digéré non plus. Donc ça va être important aussi d'apprendre à digérer pour pouvoir capitaliser sur l'expérience. Et c'est cet apprentissage, c'est le fait de capitaliser sur cette expérience qui va me permettre de progresser. Et cet apprentissage passe par exemple par plusieurs questions en disant, OK, qu'est-ce que cette situation m'a permis d'apprendre sur moi, sur mon métier? Qu'est-ce qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné qui a amené à ce résultat? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais pu faire? Donc tous ces questionnements que vous pouvez avoir vont vous aider à transformer l'événement. Transformer l'événement qui peut être vécu comme un échec ou quelque chose de douloureux en un apprentissage. Et quand on arrive à faire cette traduction de l'événement douloureux en apprentissage, eh bien, l'événement devient moins pesant émotionnellement. Ce n'est plus juste un échec, c'est devenu une expérience, parce que j'ai pu capitaliser dessus. Mais tant que je ne capitalise pas dessus, ça reste un échec. Je reste sur ce sentiment d'échec. Donc le fait de prendre le temps d'apprendre de cet événement va permettre de sortir de ce sentiment d'échec pour passer dans un sentiment d'apprentissage, de progrès. Et ça, c'est une étape hyper importante pour pouvoir rebondir par la suite et pas rebondir n'importe comment, parce que si on ne passe pas par cette étape d'apprentissage, on va peut-être faire les mêmes erreurs. Je vais prendre un exemple, l'exemple cette fois-ci d'un recrutement qui ne s'est pas bien passé, ou en tout cas, voilà, j'ai pris quelqu'un dans mon équipe. Et au bout de 3 mois, je me rends compte que ça ne se passe pas du tout bien, il y a plein de problèmes, etc. Et j'ai le sentiment en tant que manager que c'est un échec pour moi. Et je me dis, bah voilà, il faut le licencier et pour trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais si je ne passe pas par cette phase d'apprentissage, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que nous sommes en arrivés là, eh bien je risque de faire la même erreur, tout simplement. Donc l'apprentissage est hyper important ici pour pouvoir transformer l'échec ou la difficulté en expérience. Et cet apprentissage permettra de prendre de meilleures décisions. Et quand on est dans une situation de résilience et de rebond, eh bien, le rebond passe par d'abord la prise de décision. Parce que tant qu'on ne prend pas de décision, ben on reste dans le statu quo. Et tant qu'on est dans le statu quo, on n'avance pas. Le principe de résilience, c'est le fait de rebondir, d'avancer malgré tout. L'avancée malgré tout passe tout d'abord par la prise de décision. Et la prise de décision, ben, c'est quelque chose qui se travaille également. Mais la prise de décision, c'est le premier pas, ce n'est pas la finalité. Hein, si vous avez décidé de vous séparer de quelqu'un pour passer à autre chose, mais que vous n'actez pas, la décision est prise, mais il n'y a pas d'action, bah vous allez rester dans cette situation finalement. Donc c'est important aussi d'avoir ce courage, cette audace de vraiment implémenter la décision, de vraiment passer à l'action, de mettre en place ce que vous avez décidé. Et ça demande aussi des soft skills, hein, comme pour chaque étape, vous avez à chaque fois besoin de soft skills. Que ce soit pour la préparation, la digestion, l'apprentissage, la décision ou l'implémentation, ça va demander du courage, ça va demander de la motivation, peut-être de la force de volonté pour pouvoir agir. Et enfin, la durabilisation. C'est-à-dire que oui, en effet, vous avez pu passer à l'action, implémenter, et après, en fait. Et pour moi, la durabilisation, c'est réussir à créer un système vertueux qui permet de faire des choses qui fonctionnent en prenant conscience de ce qui fonctionne et d'arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas en fait et d'être toujours dans cette notion d'amélioration continue. Et pour moi, en faisant cela, bah, ça va nourrir la première étape de préparation parce que cette phase de durabilisation eh bien, repose enfin, est liée directement à cette notion de préparation quelque part. Et c'est ce qui permet de créer un cercle vertueux de résilience professionnelle. Bon, je vous ai fait un condensé ultra court et dense de ce que j'ai pu mettre dans mon ouvrage. Est-ce que ça vous parle, ce processus en 6 étapes qui permet de développer sa résilience professionnelle, notamment d'un point de vue des soft skills? Ok, très clair, structuré. Bon bah très bien, j'ai l'impression que c'est très clair. Mais dans ce cas, je vais juste faire un petit récap de ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Nous avons vu que nous sommes dans un monde qui est à la fois VUCA et TUNA, qui est turbulent, qui nous challenge et qui génère plein de changements au niveau des métiers. Donc par exemple, bah, avec des métiers disparaissants, des métiers émergents et des métiers mutants. Ces changements nous amènent à devoir miser, à devoir développer notre résilience. Notre résilience professionnelle qui consiste à savoir endurer, à savoir rebondir et à savoir persévérer. Et nous avons pu faire un exercice ensemble sur lequel vous êtes engagé pour pouvoir avoir votre note sur une échelle de 0 à 30 de votre niveau de résilience professionnelle et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire durant les prochains mois, enfin les prochains jours, pardon, pour augmenter cette note. Et ensuite, eh bien, on s'est rendu compte que miser sur les soft skills, c'est une manière d'augmenter sa résilience professionnelle. Parce que ce sont des compétences humaines transversales qui ne tombent pas dans le piège de l'obsolescence des compétences au même titre que les compétences techniques. Et donc pour cela, nous allons pouvoir passer par 6 étapes et développer notre capacité d'adaptabilité à travers les 6 étapes de la résilience professionnelle. Et donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je profite d'ailleurs de cet événement, enfin de cette intervention, pour vous partager une nouvelle également. Donc c'est un sujet qui me passionne depuis des années. La résilience professionnelle, j'ai pu écrire un bouquin dessus, j'ai pu faire des conférences dessus, il y a énormément de choses à faire. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on en a plus besoin que jamais par rapport à toutes ces turbulences par lesquelles nous passons. Et je suis absolument convaincu de l'importance et de la puissance des soft skills pour aider à développer cette capacité de résilience professionnelle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est important, ça aide, je l'utilise aussi dans d'une certaine mesure, mais ça ne va pas être la réponse à la résilience. La résilience professionnelle, d'ailleurs, qui peut être transposée dans des circonstances personnelles aussi. Parce que ce sont des soft skills et ce sont des compétences que l'on peut transposer à la fois dans le domaine personnel et dans le domaine professionnel. Donc, j'ai profité de ce moment avec vous pour vous partager la nouvelle thématique du prochain Beyond Success. Parce que là, je vois qu'il y a Claude qui est là, qu'il y a d'autres personnes du programme Beyond Success et qui sont en train de terminer le cycle sur l'intelligence relationnelle. Eh bien, je vais vous présenter la prochaine session qui sera sur la résilience professionnelle. L'idée ici, c'est de vous accompagner sur 3 mois pour développer justement toutes ces soft skills pour que vous ayez ce sentiment d'avoir toutes les ressources en vous pour faire face à l'avenir et d'être moins stressé, moins. On parlait tout à l'heure de bon stress. Le mauvais stress, c'est quoi? C'est quand je sens que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les ressources pour faire face à la difficulté. Le bon stress, c'est je me sens stressé, mais j'ai confiance dans ma capacité à y arriver. Et pour moi, ça passe par les soft skills. Plus vous allez développer les soft skills, plus vous allez avoir ce sentiment d'avoir les ressources en vous. Et donc, moins vous aurez de mauvais stress pour plus avoir de bon stress et de voir les difficultés comme des défis. Et ça passe par le développement des soft skills, qui est le principe même du programme Be Your Success spécial résilience professionnelle. Et donc, ce programme repose sur 3 mois d'accompagnement qui permet de maîtriser des techniques pour développer la résilience. Donc, appliquer aussi la pensée systémique. Donc là, aujourd'hui, je vous ai parlé des 6 étapes, mais c'est qu'un module parmi les 5 que nous allons voir durant ce programme. Et durant ce programme, on va aussi voir la pensée systémique. Donc moi, par exemple, ça a été le cœur de mes études à l'époque, qui est à l'origine une discipline scientifique, la science des systèmes complexes, sauf que moi, je l'ai appliquée dans le domaine professionnel et personnel et du développement personnel, justement. Et donc là, nous allons voir en quoi ce modèle permet de développer sa résilience. Je vous parlais tout à l'heure dans le monde VUCA, il y a la complexité qui peut être aussi une ressource en fait pour être plus résilient par rapport aux turbulences que nous traversons. Mais pour ça, il faut comprendre les mécanismes de la pensée systémique. Nous allons voir aussi des techniques pour développer sa confiance en soi et développer des vraies stratégies appliquées à vous, à vos propres problématiques et pas de manière, on va dire, standardisée. Là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner individuellement. Et pour cela, nous avons prévu 5 modules pour y arriver. Le premier module, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur sur ce que je vous ai présenté, à savoir les 6 étapes de la résilience professionnelle. Mais on s'en arrête pas là, en fait. On va encore plus loin avec ce fameux module sur la pensée systémique appliquée à la résilience professionnelle. Ensuite, nous allons voir comment cultiver la résilience au quotidien. Donc oui, il y a les étapes, oui, il y a la pensée systémique, mais comment on va aller travailler en profondeur sur les habitudes, sur le mindset, pour que la résilience devienne quelque part une seconde nature. Nous allons voir ensuite comment aller encore plus loin que la résilience en adoptant la notion d'antifragilité. Hein, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui voulait être plus robuste. Sachez que être robuste n'est pas forcément la meilleure stratégie de résilience. Être robuste, c'est comme par exemple être un chêne, mais si le vent est trop fort, eh bien le chêne va être déraciné, il va se casser. Être robuste, c'est ça. Fragile, c'est pas bon non plus. Être fragile, c'est par exemple être un petit arbre tout fébrile et qui va être cassé encore plus rapidement. L'antifragilité ou la résilience, encore mieux, c'est être comme par exemple un roseau qui va bouger avec le vent sans se casser, être à la fois solide mais flexible. Et nous allons voir justement dans cette notion d'antifragilité comment cultiver cette dynamique-là pour être plus résilient face à ces turbulences, finalement. Et enfin, un plan d'action. À la fin du programme, vous aurez un vrai plan d'action pour être plus résilient tout au long de l'année, voire même pendant plusieurs années. Et en plus de ça, pour les 20 premières personnes qui s'inscrivent, eh bien, vous allez avoir 3 bonus offerts. Donc 3 bonus qui vont compléter tous ces contenus avec cette fameuse masterclass sur le livre que j'ai pu écrire. Ensuite, une masterclass sur le livre Tout ce qui ne nous tue pas. Et enfin, l'interview que j'ai pu réaliser avec Robert Savoie, donc à chacun ses défis, qui parle également de résilience, où là, on va être plus sur la résilience personnelle que professionnelle. Et donc, si cela vous intéresse, eh bien, je vous donne le lien. Vous pouvez voir si le programme est fait pour vous, ou peut-être que le programme peut intéresser une personne de votre réseau, et de voir si ça vous convient. En tout cas, pour ma part, ce sera vraiment un vrai plaisir de vous accompagner à travers tous ces rendez-vous que l'on va avoir les lundis midi, qui sont tous enregistrés d'ailleurs, et que ce soit avec moi donc pour les coachings collectifs et les cours que je vous ai présentés, mais pas que. Vous avez aussi des sessions de coaching collectif, on va dire de mentorat collectif, que va animer Morgane, par exemple, des sessions d'ateliers de créativité, où là on va explorer d'autres manières d'apprentissage, d'autres manières d'apprendre pour aller creuser cette notion de résilience, mais aussi des ateliers avec Caroline, qui va animer une session de modélisation, notamment de Boris Cyrulnik, pardon, et également une lecture augmentée sur des livres inspirant. Donc un programme hyper complet, léger également, donc on va en profondeur, mais vous allez voir que l'atmosphère, elle est quand même assez légère, on est dans un groupe soudé, dans une communauté bienveillante, et l'idée, c'est pas de trop se prendre au sérieux, c'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et donc c'est vraiment ça la philosophie de Be Your Success. Donc j'espère que cette intervention vous a plu et qu'elle vous a aussi donné envie de rejoindre le programme Be Your Success. Pour ma part, je vais rester encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je vais voir dans le chat s'il y a des questions qui ont été données ou si vous en avez encore pendant les quelques minutes qui nous restent. Alors je regarde. Stress. Alors, comment être résilience quand on est, quand on est un leader collaboratif, ça rejoint la question de Marc qui dit manager la résilience individuelle, d'équipe et organisationnelle. Donc, pour moi, la clé pour développer la résilience d'un point de vue collectif, que ce soit au niveau de l'équipe ou au niveau organisationnel, pour moi, ça passe par le développement des soft skills. Donc, c'est déjà commencer par soi, comment je vais développer mes soft skills en lien avec la résilience, et ensuite d'inculquer cela aussi à l'équipe. Et ça passe notamment par des rituels. Donc, par exemple, avec mes équipes, eh bien, j'ai des rituels hebdomadaires. Dans ces rituels hebdomadaires, j'ai posé des questions. Et je sais qu'à travers ces questions, cela va amener à un développement de compétences. Par exemple, des questions du type qu'est-ce qui a été difficile pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi la semaine dernière, pardon? Qu'est-ce que tu as pu apprendre? Qu'as-tu fait de bien? Et de quelque part poser cette question de manière ritualisée va créer des habitudes et va amener quelque part les membres de l'équipe ou les membres de l'organisation à changer leur mode de fonctionnement, à penser différemment. Et c'est ce penser différemment qui fait que eh bien, vous allez eh bien, diffuser cette notion de résilience, pas qu'à vous, mais aussi aux autres. Je pense que et donc les compétences que je recommande de développer dans ce cadre-là, notamment dans ce voie, comment dire, dans ce monde VICA, c'est la gestion des émotions, la capacité à apprendre, la prise de décision, la capacité à passer à l'action. Donc c'est ces compétences intrinsèques aux 6 étapes que je vous ai présentées. Je ne vois pas la réduction pour le paiement une fois. Ah oui, en effet, je vais corriger ça tout de suite. Claude, merci pour le retour. J'ai dû faire une erreur quelque part, hein, que je vais corriger de suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Être un roseau? Non. Alors, le temps que je corrige cette erreur. J'ai corrigé ça, ça va être fait dans les 5 minutes. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps s'il n'y a pas de questions. Ok, donc là, merci pour le feedback. J'ai corrigé ça, ça va être corrigé d'ici quelques minutes. Pour les autres, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous revoir prochainement durant nos rendez-vous du lundi midi. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. et je vous dis à très bientôt. Bye bye.